Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir?
Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes romarin.
Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha.
Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors et tombe des cordes.
Oui, et alors?
Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Soirée spéciale, l'ombre d'un doute ce soir sur France 3 dès 20h45. Franck Ferrand et ses reporters nous emmènent à Venise pour un voyage à travers 1000 ans d'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avons beaucoup travaillé avec Simon Tisse et ses équipes pour vous donner ce soir un aperçu de Venise qui soit à la fois neuf et envoûtant. Nous allons vous raconter la cité des Doges à travers quelques-unes des grandes journées qui ont marqué son incroyable saga.
Alors j'imagine que pour vous, le tournage n'a pas été désagréable.
Non, disons même qu'il a été magnifique, servi par un temps radieux comme celui d'aujourd'hui en France. Nous vous avons rapporté de belles images, vous allez voir, et aussi quelques bonnes histoires où l'on croisera aussi bien Marco Polo que Casanova et toutes sortes d'autres Vénitiens mémorables.
Et alors, est-ce que cette émission vous a révélé peut-être des aspects nouveaux de Venise ?
Oui, plusieurs, et notamment elle m'a permis de réaliser à quel point les liens entre Français et Vénitiens ont pu être forts, nombreux. D'ailleurs, ce que je vous propose tout de suite, comme pour préparer nos découvertes de ce soir, c'est de mettre en évidence tous ces points de convergence entre Venise et la France.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les Français, car c'est bien d'eux, donc de nous, que nous allons parler tout de suite à propos de Venise. Nos Français retiennent de cette ville, outre les masques et les gondoles, les palinés de couleur et les sardines à l'oignon. C'est les palinés, c'est ces espèces des grands pieux colorés auxquels on attache les embarcations à Venise. Et puis c'est aussi une façon de marquer l'appartenance de chaque maison ou de chaque palais à une famille, à une lignée. On en retient bien entendu de cette Venise les dentelles, les bronzes patinés, les sols en mosaïque et le papier marbré. Les Français rapportent volontiers toutes sortes de petits objets en chiffres, en papier mâché et verni ou bien en verre coloré de Murano. Mais la magie de Venise ne passe pas seulement par les objets. Venise, c'est d'abord une langue et un vocabulaire. Ici, on ne parle pas de place, par exemple, mais de campo, campi au pluriel. Pas de cour intérieure, mais de corte. Et les hôtels particuliers sont appelés palais et les maisons de corporation, ce sont des écoles, les scuole. Les quartiers sont des sestiere et il y en a 6, comme l'indique leur nom. San Marco, San Polo, Santa Croce, Canareggio, Castello, Dorso Duro. Les entrepôts ici sont des fondacci, chaque quai est une ripa. Ce recoin de la mer Adriatique, fermé par des langues de terre, dont celle du Lido, est constellé d'un chapelet d'îles, San Giorgio, Murano, Burano, Torcello. C'est la lagune, une lagune balisée par des faisceaux de pieux de bois attachés ensemble, les ducs d'Albe, en vénitien les bricoles. C'est qu'à Venise, si vous voulez, tout est un peu différent. La cité des Doges nous présente, à nous Français depuis un millénaire, un autre modèle culturel aussi raffiné que le nôtre. Et c'est très rare ça. Et c'est, je crois, ce qui nous fascine. Il faut rappeler qu'à vol d'oiseau, Venise est assez proche de la France et qu'avant de devenir, il y a 150 ans seulement, une ville de province au sein de l'Italie unifiée, cette cité a été le siège d'une république indépendante pendant plus de 1000 ans. République dont la puissance a dominé tout le bassin méditerranéen, rayonnant même très loin vers l'Est. C'est donc une sorte de capitale que la France, siècle après siècle, s'est habituée à connaître à travers Venise, à aimer en elle, à combattre parfois et à envier aussi, presque toujours. Et pourtant, même chez des Français cultivés, il n'est pas rare de constater qu'à propos de Venise, on s'en tient aux clichés les plus approximatifs. D'abord, quelle proportion de nos compatriotes sont conscients que Venise est une île, tardivement reliée au continent par un pont? Combien ont à l'esprit qu'au sein de cette île urbaine, la plupart des artères ne sont pas de bitume et de pavés, comme ailleurs, mais d'eau, une eau omniprésente? Il y a quelques années, un homme de culture, que je ne nommerai pas, sachant qu'il devait se rendre à Venise, demandait à un résident s'il était facile de s'y garer. Réponse du Vénitien d'adoption, vous voulez dire de ranger son bateau? Naturellement, nombreux sont tout de même les Français qui connaissent Venise pour s'y être rendus. Certains de nos concitoyens sont même incollables sur la Sérénissime. On pourrait en citer de nombreux. On connaît la tendresse de Philippe Solers, par exemple, ou de Jean d'Ormesson pour Venise, et bien sûr d'Alain Vircondelet. Ce dernier nous fait l'amitié d'être venu exprès à Paris aujourd'hui pour nous communiquer sa passion vénitienne. Ce que je vous propose dès lors, c'est de revivre en sa compagnie la longue et fébrile histoire d'amour entre ces deux républiques, la très ancienne et maritime, foncièrement aristocratique, et puis la plus récente, d'abord terrienne et foncièrement monarchique. Ces Français fous de Venise, titre un nouveau-né de la presse historique, ce magazine Détour en histoire qui sera bientôt dans les kiosques. Alors qui ont-ils été ces Français? Comment ont-ils vécu leur douce et noble affection? Voilà un thème qui devrait alimenter notre vagabondage d'après-déjeuner, canotant au fil des siècles au gré des canaux miroitants.
Les amants de Venise, Edith Piaf sur Europe 1. À tout de suite pour Les Français et Venise, juste après ça.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Alain Vircondelet, qui est universitaire et écrivain, vénitien de cœur. Son dernier livre est d'ailleurs consacré à Venise et s'intitule « Le grand guide de Venise » et il est disponible chez Beaux-Arts Éditions.
Et c'est un grand guide qui nous entraîne sur les pas de Canaletto et d'un certain nombre de ses maîtres vénitiens de la Veduta. Vous savez, c'est cette vue d'ensemble, ce panorama vénitien. Et la très bonne idée du livre, c'est de constamment mettre en regard des tableaux du 18e, du 19e siècle et des photographies de ce qu'est devenu Venise aujourd'hui. Et j'allais dire, la surprise, c'en est peut-être pas une, finalement, Alain Vircondelet. En tout cas, ce qu'il y a de remarquable, c'est que les sites ont relativement peu évolué. Il y a très peu de villes au monde, je crois, dont on pourrait dire que l'on reconnaît 80 ou 90% de ce qui était sur le tableau du 18e siècle dans la photo d'aujourd'hui.
C'est vrai, lorsque l'on lit Montaigne, on lit Rousseau, quand on lit Proust et qu'il parle de Venise, eh bien, quand ils évoquent les paysages de Venise et les quais de Venise, on sait aujourd'hui de quoi il parle, puisque c'est exactement encore la même chose. Et le projet du livre que j'avais eu, c'était effectivement de faire venir un photographe pour le poster au même endroit que celui de Canaletto ou de celui de Guardi. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait le même paysage qui apparaissait. Avec des petites différences quand même, parce qu'il y a, vous savez, à Venise, c'est toujours la fête, et c'est toujours aussi l'étrangeté. On construisait des édifices éphémères. Ce qui fait que, quelquefois, chez Guardi ou chez Canaletto, il y a le long...
Oui, des arcs de triomphe, des portiques.
Des portiques que l'on ne voit plus aujourd'hui. Mais il faut savoir quand même que cela était relativement fragile et que...
Venise est un peu hors du temps, oui. Et Jérôme Zisnis, qui dirige le comité français pour la sauvegarde de Venise et qui nous a beaucoup aidé à monter cette émission de télévision qui sera diffusée ce soir, me disait qu'en fait, lorsqu'on vit à Venise, lorsqu'on en prend le pouls et le rythme, on finit par acquérir une sorte de philosophie de l'existence, en quelque sorte. On est moins précipité dans le tourbillon du monde que lorsqu'on se trouve ailleurs. Vous partagez cette idée-là?
Oui, je pense qu'il a raison. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une île, donc on est déjà dans une situation insulaire et on est au cœur d'une résille d'île et on est dans un monde qui est totalement différent, on est détaché du monde dès lors que l'on
D'abord,
passe...
il n'y a pas de voiture déjà, hein, pour
pas de voiture, mais dès lors que l'on arrive par exemple par le train à Santa Lucia et que l'on prend le Vaporetto pour entrer dans le Grand Canal, on a l'impression véritablement d'entrer dans un autre monde. C'est une planète différente et en même temps un lieu qui est profondément métaphysique parce que tous les éléments s'y retrouvent, hein, et particulièrement l'eau qui, comme chacun sait, a aussi une vocation, je dirais,
c'est ça, évidemment,
matricielle.
Qu'il y ait la pierre, qu'il y ait ce ciel extraordinaire, hein, d'ailleurs, et les peintres s'en sont donnés.
C'est pourquoi les impressionnistes s'y sont
beaucoup
attachés.
Une lumière très particulière, bien entendu, un jeu sur la lumière, sur le feu, sur l'illumination, bien sûr, mais Une chose qu'on ne peut trouver quasiment nulle part ailleurs, c'est précisément cette eau miroitante, cette eau plus ou moins stagnante, cette eau qui file partout et qui donne à la ville une sorte de miroir sous les pas même des promeneurs.
C'est une moirure permanente.
C'est ça. Hein.
Et c'est pourquoi d'ailleurs Monet particulièrement a été fasciné. Lui qui ne voulait pas aller à Venise, qui disait « je suis trop beau pour être peint », mais quand il y est allé avec son épouse Alice, et là il y a eu un choc émotionnel d'une rare violence qui l'a obligé à peindre 8 heures par jour. Et peindre à des séquences différentes, parce que la lumière évidemment changeait selon les heures.
Je reviendrai tout à l'heure évidemment dans le cadre du récit sur ce voyage de Monet à Venise avec Alice Ochédé et sur l'extraordinaire engouement qui a saisi le peintre, comme vous le disiez, quasiment à son corps défendant, oui. Hein, en vérité. Venise a été la capitale culturelle de bien des époques, si j'ose employer cette drôle d'association de termes. En vérité, qu'il s'agisse du XIIIe-XIVe siècle, qu'il s'agisse de la Renaissance, de l'époque des grands carnavals du XVIIIe siècle ou de cette sorte de fin de romantisme un peu décadentiste de la Belle Époque, Venise a réuni des artistes venant de partout, mais d'abord, surtout, des Français. C'est ce que j'ai réalisé en préparant cette émission. D'où vient ce lien si particulier entre Venise et la France ?
C'était d'abord la ville obligée de tous les Européens. Tout le monde, depuis Montaigne, voulait visiter Venise. Ça s'est transformé dans ce fameux tour de l'Italie que l'on faisait dès la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Mais déjà, au XIVe, au XVe, au XVIe siècle, on allait évidemment visiter Venise. Et ce qui est très étrange, c'est que justement cette ville, elle n'a pas été peinte ni décrite par les Vénitiens eux-mêmes. Ce sont les étrangers qui l'ont faite aussi belle et aussi grande.
Les Vénitiens font le spectacle et les autres sont là pour le regarder.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Connaissez-vous Venise ? Il paraît qu'on y va en voyage de noces pour se faire des bises et tout un cinéma avant qu'un premier gosse vous tombe sur les bras. Mais viens, je t'invite à Venise en dépit des crises sur le grand canal.
Claude Nougaro sur Europe 1 avec Viens, je t'invite à Venise.
Alors nous y allons nous aussi sur le Grand Canal, cette espèce d'extraordinaire avenue qui serpente à travers Venise et qui présente ce double rideau de façade, tous ces palais néo-gothiques, néo-byzantins, enfin tous plus extraordinaires.
Dont il faut savoir qu'ils étaient tous peints.
Et voilà,
ce qu'on ne voit pas, peints par Véronèse, par Tintoret.
Oui,
c'est
bien
étonnant.
Sûr.
On, oui, voit, on ne voit aujourd'hui que des crépis.
Bien c'est sûr, ça. Parce que des crépis plus ou moins colorés, mais oui. On a perdu les scènes qui devaient. Ça devait être tout à fait extraordinaire. Il y a encore quelques façades avec des mosaïques, notamment. Mosaïques. Hein, c'est ce qui a le mieux tenu, ça.
Ils sont restés, oui.
Alors, justement, ce grand canal, il a impressionné un grand nombre de visiteurs. L'un des plus célèbres Français à y avoir été reçu, c'est évidemment Henri de Valois, le futur Henri III. Hein, il avait été roi de Pologne juste avant, et puis. Il apprend la mort de son frère alors qu'il est à Cracovie en Pologne. Il faut rentrer en France pour devenir le roi à son tour. Et avant de monter sur le trône, il fait une escale à Venise qui va durer quelques jours et qui a été un moment extraordinaire.
Fastueux, en juillet 1574.
C'est cela.
Et Henri III arrive à Venise qu'il ne connaît pas et dont il a entendu quand même les prodiges. Et il sait que c'est une ville prodigieuse. Mais c'est un homme qui est un petit peu trivial, vil aussi. Qui est assez vulgaire aussi hein, et qui ne mesure pas justement tout le raffinement dont la ville est capable. Mais la Sérénissime, la République de Venise, est aussi une ville qui, c'est une république qui essaie de promouvoir sa ville. Hein. Donc ça va être, c'est là qu'on va commencer à entretenir des rapports avec la France, diplomatiques, mais aussi commerciaux, extrêmement importants. C'est pourquoi il va y avoir une vitrine de Venise qui va être offerte à Henri III. Et on a, les chroniques de l'époque ont rapporté et relaté ce voyage et cette visite. Et on est absolument éberlué. C'est plus épatant encore que la visite de, Fouquet, de Louis XIV à Volvicomte. C'est assez étonnant. Alors, il est accueilli par Mocenigo, par le doge Mocenigo, qui le reçoit d'abord à, comment dirais-je, à Murano, et ils vont de Murano à Venise sur le Bucentaur, qui est quand même cette énorme
bateau, le vaisseau du doge, totalement sculpté et doré.
Il est logé d'abord au palais Foscari, et qui se trouve, comme chacun sait, qui se trouve dans une sorte de courbure dans l'anse du S du Grand Canal, la Casa Foscari, et qui est qu'a peinte d'ailleurs Canaletto, et là c'est une installation, pourrait-on dire aujourd'hui, hein, c'est une installation extraordinaire, puisque la façade est tapissée, comme d'ailleurs le Palais Grassi aujourd'hui, hein, pour la Biennale. Le Palais Foscari est tapissé de tentures de fil d'or. Et c'est tout à fait stupéfiant. Et on a installé également, devant l'entrée du palais, un énorme radeau, sur lequel il y a des fours que les verriers de Murano, ou les verriers de Murano, se sont installés, et où ils travaillent. Ils travaillent derrière des tritons de carton, de papier mâché.
Comme si on était dans les forges de Vulcain, qui flottent.
Le feu sort des gueules des tritons et des monstres. Et la nuit, particulièrement, tout le voisinage de cet angle, de cette volta, hein, est embrasé par la lueur des fours de Murano.
Et on fabrique objets extraordinaires en cristal.
Et donc c'est une manière aussi
de montrer
à Henri III ce dont est capable l'artisanat vénitien.
On lui montre pas seulement la vitrine, on lui montre l'arrière-boutique aussi, puisqu'il va connaître les courtisanes de Venise.
Oui, il va connaître les courtisanes. On va lui présenter même Veronica Franco, mm-hmm. Qui est la grande poétesse et courtisane vénitienne, mais qui en réalité ne plaira pas du tout à Henri III. Mais ce qui est assez étonnant aussi, c'est que le doge veut montrer que l'on sait bâtir, construire des vaisseaux très rapidement. Alors il amène à l'arsenal, dans le lieu le plus secret finalement de la République de Venise, où aucun vénitien même ne pénètre, et on le fait entrer dans l'arsenal, dans les ateliers, et là on lui montre un vaisseau qui est à peine en ébauche. Et le soir même, on lui montre le vaisseau achevé. Pour montrer que, évidemment,
la rapidité, l'efficacité.
Et donc, il faudrait peut-être aussi que la France puisse se doter un jour d'une flotte achetée à Venise.
C'est amusant parce qu'en 1574, on est au sommet de la puissance vénitienne. Oui. Et en même temps, les Vénitiens en sont peut-être conscients. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on est déjà dans le déclin. On est après la célèbre bataille de Lépante qui marque la victoire de la chrétienté sur les Turcs, mais en même temps qui marque l'arrêt définitif de l'hégémonie vénitienne, il faut bien le dire, sur la Méditerranée, sur le camp occidental.
Et on commence également à aimer un peu trop le luxe et la mollesse, comme dit Voltaire.
Oui, on se vautre dans les plaisirs. Et alors ces plaisirs, ils vont évidemment se développer pendant tout le XVIIe siècle. Il y aurait beaucoup à dire sur les ambassadeurs de Louis XIV à Venise, etc. On va peut-être pas s'y attarder. C'est au XVIIIe siècle que Venise devient un peu le cœur de tous les plaisirs de l'Europe. Et l'un de ceux qui nous la décrivent avec le plus de naïve franchise, c'est le président de Brosse, qui est un voyageur de la bonne société dijonnaise et qui effectue ce qu'on appelle le grand tour. Il faut peut-être dire un mot du grand tour, Alain Vercondelet.
Il y a ce grand tour qu'on appelle il torno. C'est le tour que l'on doit faire lorsqu'on est un honnête homme. On doit faire ce tour de l'Italie parce que c'est le berceau de la civilisation. Alors évidemment, Rome y joue une place très importante, mais aussi Padoue, mais aussi Vérone et Naples. Il ne faut pas oublier Naples, bien sûr. Et le président de Brosse qui va devenir... Il est président parce qu'il est premier président de la cour de Bourgogne, hein, du Parlement de Bourgogne. Et va s'installer donc à Venise. Il aurait aimé être un ambassadeur de Venise. Il ne l'est pas, mais il va écrire des lettres.
Des lettres charmantes.
Tellement vive, tellement pétillante que Stendhal s'y retrouve lui-même plus tard. Et il va dire, il y a trois hommes que j'aime dans ma vie, c'est le président de Brosse, Stendhal et puis Mozart.
Ouais, mais c'est la même fulgurance peut-être,
peut-être pour la même grâce.
Si vous voulez, dans un instant, on va revenir au président de Brosse parce qu'il faut revenir sur la description qu'il donne justement de la sérénissime République de Venise.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Et Franck, vous nous emmenez aujourd'hui à Venise. Je rappelle que c'est un avant-goût de l'émission de ce soir à la télé sur France 3.
Eh oui, il n'y a pas d'endroit, c'est ce qu'on est en train de dire à l'instant avec Alain Vircondelet, il n'y a pas d'endroit qui fasse plus rêver que Venise. Alors, ce qui est très étrange, c'est que généralement, lorsque vous rêvez d'une destination et que vous y arrivez, bon, c'est toujours plus ou moins agréable, mais bon, vous rentrez dans la réalité. Quand vous arrivez à Venise,
pas de déception.
Vous continuez à rêver. Ça, c'est incroyable. D'où vient que cette ville soit à ce point fantastique au sens propre du mot, Alain Vircondelet?
Parce que je crois qu'elle est le lieu de tous les fantasmes, elle est le lieu de tous les rêves. Proust disait lui-même qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est supérieur à son rêve même. Donc Venise rattache, comme je le disais tout à l'heure, rattache aussi à quelque chose de très spirituel et en même temps de très ancien, comme si on venait de là. Finalement,
et
il y a un
poète,
peu
de berceau,
oui, il y a un poète officiel de la cour du doge, d'un doge au XVIe siècle, je crois que c'était en 1500 et quelques, qui a donné une définition de Venise qui est très très belle, que d'ailleurs Philippe Soler utilise souvent et qu'il rapporte. C'est il donne une étymologie de Venise qui est farfelue, qui est un peu fantaisiste. Il dit que Venise vient de veni et siam, hein, revenir encore, venir, revenir encore,
et toujours
et
revenir.
L'on entend toujours une sourde prière en soi, dit-il, et cette sourde prière consolante, c'est celle justement d'un passé ancien, inconnu à nous et que nous porterions avec nous.
Le conseil qu'on peut donner à ceux qui vont se promener à Venise, d'ailleurs on peut y aller à toutes les saisons, qu'il y a cette espèce de légende qui veut que ce soit un enfer en été. Si vous sortez de la place Saint-Marc ou du Rialto, c'est magnifique aussi en été. Hein, bon.
Les peintres du 19e disaient settembrini, il faut être settembrino, c'est-à-dire en septembre, c'est peut-être le mois le plus magnifique.
Ouais, c'est vrai, mai et septembre. Et alors il faut savoir se perdre dans Venise, et ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'y perd et qu'on y ressent aucune angoisse. Ça, je pense que c'est lié au caractère insulaire aussi, peut-être. Mais vous avez toujours l'impression, justement, d'être chez vous. C'est ce que déjà ressentait le président de Brosse pour revenir à lui.
Revenir chez soi. Et le président de Brosse aimait beaucoup Venise, justement, parce que... Alors lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'était la Venise populaire, la Venise des bas quartiers, la Venise, la Venezia Minore, c'est-à-dire vraiment cette Venise du peuple, et c'était là où il trouvait justement toutes les jeunes filles dont il tombait amoureux. Vous savez, Saint-Exupéry disait, en parlant des femmes qu'il aimait beaucoup, il disait les Daisy, les Suzy, et il y avait tout un catalogue comme ça de prénoms qui se poursuivaient en i. Eh bien, le président de Brosse a dit la même chose. Il disait je n'aime à Venise que les Ancilla, les Camilla, les Faustola, les Giulietta, les Caltina, les Spina, les Agatina. Voilà. Et c'était un libertin. Et il était très amoureux de cette ville parce qu'évidemment, au XVIIIe siècle, Venise a été le lieu où la prostitution, où les courtisanes, mais qui étaient néanmoins des courtisanes, souvent lettrées.
Hein. Et le beau libertinage aussi a eu son épanouissement.
Il rapporte des anecdotes tout à fait extraordinaires, et particulièrement, il aimait bien se promener dans la lagune, dans cette résille justement d'îles et d'îlots, et où se cachaient des ridotti, c'est-à-dire des lieux de plaisir et des casinos. Et là, il aimait bien...
Quand on dit casino, c'était pas des endroits où on jouait aux cartes. Hein,
c'était des
garçonnières, si l'on peut dire.
C'était des lieux de prostitution ou des lieux de rendez-vous, mais aussi où on pouvait jouer à certains jeux, quand même. De jeux d'argent. Et on s'y rendait sur une gondole qui était elle-même recouverte du fameux felze, c'est-à-dire de ce petit dé, de ce petit...
C'est comme une petite cabane sur la gondole.
Cabane de tissu, de velours, où évidemment tout pouvait se passer. Et il disait qu'il chérissait particulièrement les gondoles à felze, parce que on pouvait, disait-il, être comme chez soi, comme dans une chambre, je pouvais, disait-il, y lire, y écrire, converser, caresser ma maîtresse, manger et bien d'autres choses encore. Et il termine par etc.
On se demande ce qu'il peut bien faire d'autre. Alors, parmi les grands libertins de Venise, le plus célèbre, évidemment, c'est Casanova, qui est le plus français des Vénitiens et qui va avoir des liens avec notre ambassadeur à Venise, le futur cardinal de Bernis, ambassadeur de Louis XV à Venise, qui lui est le plus vénitien des Français, en quelque sorte.
Alors, Casanova est le plus vénitien vénitien des Français, parce que d'abord, il écrit en français.
Ben oui,
il écrit
oui.
une œuvre magistrale, hein, qui est digne des plus grands, qui est digne de Diderot, qui est digne de Sade, c'est de Crébillon. C'est vraiment un immense écrivain français qui, malheureusement, n'est jamais étudié pour des raisons qui sont stupides, parce qu'on pense toujours que ce qu'il écrit est très libertin, mais en réalité, il n'y a que quelques pages. Le récit de son évasion des plombs de Venise, de la prison des Piombi, bon, est un véritable chef-d'œuvre qui pourrait être qui est à l'égal de ce qu'a pu écrire Jacques Diderot avec Jacques le Fataliste ou d'autres textes.
Et
c'est vraiment un grand
chef-d'œuvre. On en a beaucoup parlé ici parce qu'évidemment, c'est bourré de rebondissements, c'est plein de suspense et c'est une très belle histoire à raconter, l'évasion des plombs.
Et il ne se privait pas d'ailleurs de raconter cette histoire puisque où qu'il aille et jusqu'à son exil en Bohême, eh bien, il racontait cette anecdote en brodant, en y ajoutant différents événements. Mais ce qui est assez étrange, c'est que dans les mémoires de Casanova, il parle très peu de Venise, cependant. Venise fait partie de lui-même à tel point qu'il n'a pas besoin de la décrire, finalement. Hein. Et il y a quelques anecdotes qu'il raconte, particulièrement l'anecdote de son enfance, lorsque sa grand-mère l'a amené chez une sorcière de Burano, qui pouvait éventuellement le soigner de ses hémorragies récurrentes qu'il avait lorsqu'il était petit garçon. Et effectivement, il raconte cet épisode où il a été comme embaumé dans des linges avec des onguents particuliers. Et finalement, il est sorti de cette épreuve de sorcellerie blanche. Il en est sorti guéri. Mais on sait très peu de choses finalement sur Venise par les mémoires de Casanova.
Oui, Casanova n'est pas le bon biais pour découvrir Venise.
Non,
hein, c'est un fait.
Il décrit. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il décrit les fameux couvents où effectivement il va essayer de trouver des proies naïves, mais qui n'étaient pas si naïves que ça finalement, parce que les nonnes qui s'y trouvaient n'étaient pas là par vocation, elles étaient là envoyées par leur famille parce que
elles cherchaient des compensations.
Voilà. Donc évidemment, c'était un lieu de rendez-vous.
Il faut pas oublier que les nonnes sont sous leur voile, certes, mais pendant 6 mois de l'année au XVIIIe siècle, on vit masqué à Venise. Oui. On a ces espèces de dominos. Ben,
Et puis aussi, le carnaval dure très longtemps. Il commence en février, il se termine pratiquement au début de l'automne suivant. Et alors, il y a tout le monde vit dans une sorte de festivité, mais ça c'est au 18e, surtout.
Au 18e, hein, oui.
Parce que il y a comme une sorte de défaite déjà prévisible. Et c'est un peu comme dans la peinture de Watteau, où l'on voit déjà l'annonce de la Révolution française presque 80 années auparavant. Eh bien, au XVIIIe siècle, il y a à Venise cet instinct de la fête surdéveloppé, je dirais presque surjoué, parce que justement, il y a quelque chose qui chancelle. Un peu comme la ville elle-même, d'ailleurs, hein, qui est toujours de l'ordre, comme nous disions tout à l'heure, de l'ordre du prodige, parce que comment la Salute, par exemple, peut tenir sur ces millions de pieux, cette immense masse
en fait,
de marbre, hein, et qui tient quand même. Mais en même temps, on a toujours l'impression à Venise, et certains voyageurs ou touristes peuvent le ressentir, on a toujours cette impression de vacillation.
Ça va s'effondrer.
Et puis aussi de vacillation. Hein, on a un petit peu comme ça, un peu, certaines personnes éprouvent certaines tournées.
Oui,
même lorsqu'on est à terre.
Ah oui, bien sûr, mais parce qu'il y a notamment ce reflet de l'eau partout sur les façades, ça miroite, c'est extraordinaire. Le grand guide de Venise sur les pas de Canaletto et des maîtres vénitiens, c'est le dernier ouvrage d'Alain Vircondelès sur cet immense et inépuisable sujet.
Thank you.
extrait sur Europe 1 du concerto pour flûte et orchestre d'Antonio Vivaldi. Et maintenant, vous nous emmenez toujours à Venise, mais à la belle époque.
Oui, c'est ça, on va faire un saut dans le temps. Évidemment, il y aurait tellement de choses à raconter. Dans l'émission de ce soir, vous verrez qu'on a plus de chapitres et plus de temps, tout simplement. Mais on parle notamment des amants de Venise, de Georges Sand et Alfred de Musset, de leur incroyable voyage des années 1830. Il y a tout un romantisme à Venise aussi, qu'il ne faut pas négliger. Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on s'attarde maintenant, c'est précisément sur cette belle époque. À Venise, tous les poètes savent bien qu'il n'y a pas de maison mais des palais, écrivait Octave Mirbeau à cette époque. Il n'y a pas d'atmosphère puisqu'un voile rose est posé sur Venise comme une écharpe autour d'une danseuse. Il y a un rose Venise comme il y a un vert véronèse, écrivait-il. Tant de poésie ne peut pas aller, évidemment, sans un certain nombre de clichés. D'ailleurs, Mirbeau en est conscient. Il dit « Venise a chaviré peu à peu sous le poids des imbéciles, les littérateurs l'ont peinte et les peintres l'ont décrite. » Et ça, je pense que c'est une des clés aussi, et c'est ce que montre remarquablement Alain Vircondelet dans son ouvrage, ce lien entre écriture picturale et peinture littéraire. C'est un peu ce que disait aussi Claude Monet, évidemment, comme nous le disions au tout début de cette émission, quand Claude Monet arrive à Venise, au départ, il se dit « Oh là là, c'est tellement extraordinaire, ça désarme le peintre. » On est à l'automne 1908 à ce moment-là, ça veut dire qu'il a quand même 68 ans, Claude Monet. Il a accepté l'invitation d'une amie américaine, peut-être moins par curiosité personnelle, du reste, que pour faire plaisir à son épouse, à Alice Ochédé. Il aborde la Sérénissime avec la méfiance de ceux qui ont peut-être entendu trop vanter un lieu pour s'y abandonner tout à fait, vous savez. Tout de même, par précaution, il avait fait envoyer sur place un peu de matériel, il avait fait envoyer quelques châssis de toile, un chevalet, etc., pour être prêt au cas où. Et très vite, il se dit qu'effectivement, il va falloir peindre tout ça, c'est trop extraordinaire, c'est trop beau. Le charme des lieux opère, le peintre est séduit notamment par le palais Barbaro où il réside, mais aussi par la Salute et par San Giorgio, avec cette vue extraordinaire qu'on a depuis San Giorgio sur, évidemment, j'allais dire la façade de Venise, avec le palais des doges et la rive des esclaves. Tout ça est tout à fait spectaculaire. Bien que je sois enthousiasmé de Venise et que j'y ai commencé quelques toiles, je crains de ne pouvoir rapporter que des commencements qui seront uniquement des souvenirs pour moi, écrit-il à son ami Bernheim, le marchand de ces toiles. Comment un artiste dont toute la peinture aura été consacrée aux reflets aquatiques et aux nuances de tons de pierre, comment cet artiste n'aurait-il pas été envoûté par Venise? Vous l'imaginez, lui qui avait peint la cathédrale de Rouen si souvent, évidemment, et qui s'était par ailleurs tellement intéressé à l'eau et aux reflets de l'eau. Là, on est dans la pierre et dans l'eau. Les Monet vont rester 2 semaines au palais Barbaro, et puis leur hôtesse étant obligée elle-même de quitter Venise, ils vont aller s'installer au grand hôtel Britannia. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les artistes s'installent soit au Britannia, soit à l'Europa, qui sont les deux grandes maisons. On va aussi au Danieli, mais moins que maintenant, si je puis dire. La correspondance d'Alice permet de retracer les journées vénitiennes du maître, qui sont réglées comme toujours par la course du soleil. Et dans les premiers temps, alors à l'époque où il est encore au palais Barbaro, on le voit dès 8h à San Giorgio, donc face à Saint-Marc, face à San Marco, à la Piazzetta, et puis plus à mesure que le soleil s'élève, eh bien, il va inverser la perspective, évidemment, et il tente de capter, cette fois depuis le quai, les subtilités de San Giorgio. Et dans l'après-midi, il plante son chevalet sur les marches du palais Barbaro avant de s'installer devant la basilique elle-même. Monet, donc, comme toujours, va peindre plusieurs toiles de front. Il y revient de jour en jour, bien entendu, selon l'heure du jour. Début décembre, après avoir esquissé une ultime gondole, elle est célèbre cette gondole parce que Monet l'offrira à son ami Clémenceau qui ensuite elle finira au musée de Nantes, vous savez qu'elle s'y trouve aujourd'hui. Le peintre va prendre le chemin du retour aux côtés d'une Alice comblée. Et il a bien fait, Claude Monet, puisqu'Alice ne vivra pas longtemps après. Elle meurt quelques mois plus tard. Ça aura été son dernier voyage et c'est un moment, ça aura été sans doute pour elle la dernière grande joie dans sa vie. Alors, évidemment, il y a un homme qui a été particulièrement sensible à la lumière dorée des impressionnistes. Son personnage d'Elstir, évidemment, notamment dans le deuxième tome de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, est un des personnages majeurs parmi les seconds rôles esthétiques de La recherche du temps perdu. C'est Marcel Proust, bien entendu. Et lui-même va effectuer 2 séjours à Venise en 1900, à l'hôtel donc Europa, lui, où descendent donc les écrivains français. Alors, Proust a une fascination extraordinaire et c'est vrai qu'il raconte comment, il le racontera notamment dans Albertine disparue, comment Venise non seulement ne déçoit pas le visiteur mais comment elle sublime tous les rêves qu'il avait pu avoir. Proust, vous savez, adorait la peinture de Carpaccio. Il la retrouve en quelque sorte dans un certain nombre des créations de Fortuny, qui est le grand styliste de l'époque. On est allé pour l'émission là, de télé, on est allé visiter l'atelier de Fortuny, bien entendu, dans son palais. Voilà ce qu'il écrit dans Albertine disparue. « Le soir, je sortais seul au milieu de la ville enchantée. Comprimées les unes contre les autres, de petites ruelles, les calis divisaient en tous sens de leur rainure le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semble que dans la matière cristallisée se soit produite une distension, un vaste et somptueux campo, de qui je n'eusse assurément pas dans ce réseau de petites rues pu deviner l'importance, s'étendait devant moi, entouré de charmants palais, pâle de clair de lune. » On revient dans une Venise qui n'est pas spécialement romantique, mais qui a du romantisme conservé un certain nombre de ses clichés, à commencer par la Venise de nuit au clair de lune. Cette Venise nocturne a halluciné. Elle a hanté aussi Henri de Régnier, exactement à la même époque, notamment au moment de ses méditations sur la célèbre terrasse de la Calario. Vous savez, c'est ce palais, le Casa Dario, dont on dit qu'il est hanté, qu'il porte malheur, etc. Celui que Woody Allen a renoncé à acheter finalement parce qu'il craignait qu'il ne fût hanté. Henri de Régnier monte sur la terrasse de ce qu'on appelle l'Altana à Venise et voilà ce qu'il écrit. « Cette terrasse, ce belvédère est posé sur le toit du palais. De là, je domine ces vieilles tuiles en pente et je voisine avec ces hautes cheminées dont l'une s'achève en forme de clé et dont l'autre se termine en entonnoir. Ces cheminées en entonnoir, elles sont une des signatures de la ville. Que vois-je encore? Un coin luisant du grand canal, le dôme arrondi d'une église, puis d'autres toits, d'autres cheminées, tout cela baigné dans la clarté d'une lune éblouissante, enveloppé d'un silence profond où je perçois cependant un murmure qui est une présence. Ce soir, je ne sais qu'une chose, c'est que ce silence, ce clair de lune, ce palais, cette terrasse vénitienne que je n'appelle pas encore une altana, tout cela, c'est Venise et que je suis heureux. »
Franck Ferrand sur Europe 1.
De Mahler sur Europe 1 qui sert évidemment de bande originale du film Mort à Venise de Luchino Visconti.
Oui, la cinquième symphonie de Mahler, évidemment ce film indépassable que j'ai dû voir 100 fois. J'ai eu le malheur de dire ça à un journaliste un jour, mais c'est vrai, c'est un chef-d'œuvre du cinéma évidemment. Et dans son bel ouvrage, Alain Vercondelet parle du cimetière de Venise. Alors il faut dire que ce cimetière, il est au nord de la ville, c'est une sorte de quadrilatère assez extraordinaire. Ça s'appelle l'île San Michele, le plus poétique et le plus secret des cimetières marins, écrit Alain Vercondelet. Savait-on en 1837 que la relégation des morts dans l'île de San Michele, décidée pour des raisons sanitaires, nourrirait le mythe romantique de la mort à Venise? C'est ce mythe qui a été évidemment sublimé par Thomas Mann avant que Visconti ne s'en empare, Alain Vercondelet.
C'est évidemment, tout le monde a en tête l'entrée dans Venise, dans cette gondole extraordinaire, sous la musique de Mahler, et c'est quelque chose de très fort, mais qui va dans, je dirais, dans le droit fil de la posture de Maurice Barrès, qui voyait dans Venise justement que monde funèbre, que monde qui allait à sa perte, comme dirait Marguerite Duras, elle aussi grande amoureuse de Venise, n'oublions pas un de ses titres, son nom de Venise dans Calcutta désert.
C'est incroyable, Barrès, oui. Marguerite Duras, vous me parliez de Zola à l'instant.
Oui, Zola qui, toute la famille de Zola est née à Venise, hein. Et d'ailleurs Zola s'appelait Zola avec deux L, hein. Il a francisé son nom et il a enlevé l'autre elle, et il y retournait, il est allé rendre visite à ses cousins, et Zola n'aimait pas beaucoup Venise parce qu'il trouvait, disait-il, et j'ai une citation assez jolie, il disait dans ses petites notes, il a dit « jamais un chemin creux, jamais un sentier près des haies, et jamais une route blanche parmi les blés ».
Mais il aimait la campagne.
Voilà, il aimait la campagne. Et, mais il disait c'était, que c'était un lieu qui était bon pour un repos après une grande douleur. Ouais. Donc on est là justement dans la mort à Venise.
On dit aussi, je l'ai entendu dire pendant notre tournage, là on parlait de ça, c'est amusant parce que quand on est à Venise, de quoi parle-t-on de Venise? C'est quand même étonnant. Mais on dit que les grandes sensations de la vie sont amplifiées, les grands amours deviennent presque étouffants de passion et les grandes douleurs deviennent presque mortelles à Venise.
C'est pourquoi c'est un lieu existentiel, hein, c'est un lieu métaphysique par excellence.
Existentiel au sens propre, puisque vous nous disiez aussi que Jean-Paul Sartre...
Oui. Eh bien, on est très étonné, effectivement, que Jean-Paul Sartre, qu'on a l'habitude de voir plutôt à Saint-Germain-des-Prés, eh bien, s'occupait de Venise, où il allait très régulièrement. Et il adorait Venise, et il trouvait que cette ville avait quelque chose de tout à fait magique. Il parlait d'ailleurs du sortilège de Venise. Et on a l'impression que ce n'est que là que Sartre a trouvé des accents poétiques. Et il a une grâce d'écriture quand il parle de Venise que l'on ne voit nulle part ailleurs dans son œuvre. Il a aimé beaucoup cette ville et il disait d'ailleurs j'avais écrit un jour aux éditions Plon un livre qui s'appelle Nulle part qu'à Venise, qui était un essai sur la ville. Et ce titre, Nulle part qu'à Venise, c'est du Sartre. Hein. Mmh. Et il disait en fait que cette ville le retient à tout niveau et que dès qu'il est à Venise, il ne cesse de déambuler dans la ville, de saisir tous les lieux, d'aller sur tous les ponts, d'aller sur toutes les gondoles, cherchant, disait-il, éperdument la Venise secrète de l'autre rive, de l'autre bord. Et je crois que justement, on a fait de mauvais procès à Sartre en disant que c'était un homme, un philosophe uniquement. Non, les mots qu'il a écrits sont très poétiques à l'égard de Venise.
Que c'est beau Venise, que c'est triste Venise, chante Charles Aznavour. Il va même nous le chanter en italien là maintenant, si vous voulez.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin.
Alors je vous annonçais Charles Aznavour en italien et c'est de l'espagnol en vérité qu'il chantait, mais en tout cas c'est bien Venise et c'est bien que c'est triste Venise. Nous avons en ligne Adrien Goetz. Bonjour Adrien.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'avoir pris notre appel.
Merci.
Vous avez écrit alors dans la série hein, de tous ces romans tout à fait désopilants que vous écrivez qui sont en quelque sorte des romans policiers de l'histoire de l'art en quelque sorte avec vos personnages Pénélope et Vandrille. Dans toutes ces intrigues, il y en a un qui s'appelle « Intrigue à Venise ».
Oui, c'est le dernier qui vient de sortir en livre de poche. Et je me suis beaucoup amusé à écrire cette histoire où Pénélope, qui est une conservatrice de musée, se retrouve à dénouer un mystère
policier. Elle est partie pour un colloque à Venise.
Voilà, elle s'ennuie beaucoup et en réalité arrive un cadavre imprévu et elle se retrouve embarquée, si on peut dire, dans une aventure qui la place au centre de ce petit cercle bien paisible dont vous parliez tout à l'heure, les écrivains français de Venise.
Enfin, et... bien paisible, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vous les égratignez un peu
voilà,
au passage.
Voilà, ces semaines-là, ils ne le sont plus. Alors j'en invente certains, il y en a d'autres que vous avez cités, Philippe Solers ou Jean d'Ormesson, et j'imagine que depuis l'époque où ils se réunissaient autour d'Henri de Régnier au café Florian sous le Chinois et où ils formaient une sorte de cercle littéraire, ils sont en réalité dépositaires d'un secret artistique à Venise et c'est ce secret qui est au cœur de mon intrigue, d'une intrigue qui se passe la semaine d'ouverture de la Biennale d'art contemporain à Venise. Et vous savez, Franck, que c'est cette semaine que la Biennale commence. Et c'est le
grand événement vénitien, il faut
oui,
dire.
Oui, vénitien, et c'est le moment qui, selon moi, a remplacé le carnaval du XVIIIe siècle. Venise redevient le salon de l'Europe, on y croise tout Paris, les fêtes, les dîners, tous les artistes, les milliardaires internationaux viennent se retrouver. C'est une semaine dont, alors Pénélope s'en moque beaucoup, mais c'est une semaine où beaucoup de choses se passent à Venise, on va voir ça dans quelques jours.
Vous nous montrez mieux que quiconque quelconque, Adrien, les liens entre Venise et la France, bien entendu, en partant d'ailleurs des chevaux de Saint-Marc qui, pendant très longtemps, ont couronné l'Arc de Triomphe du Carrousel en plein cœur de la capitale française.
Tout à fait, je remonte à ce personnage extraordinaire qui est Dominique Vivant-Denon, qui a été le créateur du Louvre de Napoléon, l'œil de Napoléon, comme Pierre Rosenberg l'avait dit. Et j'imagine que cet homme qui a été vénitien, qui a vécu à Venise avant la Révolution, est l'inspirateur de cette société des écrivains français de Venise qui se retrouve et qui est encore aujourd'hui très, très vivante et qu'on verra cette semaine errer de palais en galerie pendant la biennale entre les pavillons au Giardini, les pavillons des différentes nations. Vous savez que le pavillon français, le pavillon allemand échangent leur rôle cette année. Ouais. Tout le monde guette tout cela. On murmure que le pavillon de l'Azerbaïdjan va être absolument magnifique. Alors, et puis il y aura une exposition au Palais Fortuny dont vous parliez
alors,
à l'instant.
Oui. Justement, oui, où j'étais l'autre jour.
Voilà, ça c'est peut-être mon palais préféré à Venise. Et c'est une exposition Antoni Tàpies, le grand artiste catalan, où on mêle de l'art contemporain et des objets anciens. C'est-à-dire qu'il y a des...
Et puis... On va aussi pouvoir voir à Venise une grande expo. Alors on parlait de Monet tout à l'heure, mais cette fois sur Manet. Et
ah
notamment,
oui.
On va mettre en regard l'Olympiade Manet avec la Vénus d'Urbain de Titien.
Ça, c'est quand même bouleversant. J'ai eu la chance d'y être au moment de l'accrochage. La Vénus d'Urbain de Titien vient du musée des Offices de Florence. L'Olympia vient du musée d'Orsay. Et leur rencontre a lieu dans les grandes salles du Palais des Doges à l'occasion d'une exposition magnifique où on comprend tout ce qu'a apporté Venise à quelqu'un comme Manet. Hein, on parle toujours de Monet à Venise, mais il y a eu aussi les visites de Manet. On l'avait un peu oublié parce que on pense toujours à l'Espagne quand on cite Manet. Il y a eu l'exposition Manet-Velasquez qu'il avait bien montré au musée d'Orsay. Et là, c'est la couleur italienne chez Édouard Manet. Et c'est absolument une visite indispensable. Ça sera magnifique.
Voilà. Merci.
La peinture est à l'aise à Venise. Il y aura aussi à l'espace culturel Louis Vuitton, l'exposition qui permettra de voir un grand tableau italien du 19e siècle, La mort d'Otello de Pompeo Molmenti, mm-hmm. qui va dialoguer avec un artiste contemporain qui est Tony Hursler. Donc va être extrêmement vivant. Hein. Ceux qui pensent que Venise est une ville...
Venise est une ville d'art, mais une ville d'art extrêmement vivant, il faut le dire.
Oui,
merci beaucoup Adrien Goetz.
Merci Franck.
Intrigue à Venise, c'est palpitant comme toujours, c'est très drôle et c'est aussi très instructif. Il nous reste très peu de temps, évidemment, Alain Vircondelet. J'aurais aimé qu'on parle de tant d'autres. Mais il y a un personnage qu'il faut qu'on cite, qui est l'auteur de Venise au pluriel. C'est Paul Morand.
Oui, Paul Morand, qui a adoré Venise pour avoir écrit d'abord aussi un livre Venise au pluriel, hein, et où il a essayé de montrer toutes les facettes de cette ville. Morand est revenu à Venise, il y était aussi dans sa jeunesse, mais il a été très inquiété pendant la guerre. Et à son retour, il y a vécu beaucoup plus longuement et là il a pu visiter cette Venise comme il l'aimait, comme il l'entendait
et comme il se la rappelait jeune aussi, hein, parce qu'il l'avait connue à travers son père
etc. Oui. Et donc cette Venise qu'il aime, eh bien c'est la Venise c'est tout sauf la Venise languide, hein, c'est tout sauf la Venise romantique dont nous parlions tout à l'heure, la Venise barésienne. Non, ce qu'il aime c'est la Venise très populaire et très vive.
Le grand guide de Venise sur les pas de Canaletto, c'est aux éditions Erol et coédition Beaux-Arts Éditions, et d'ailleurs chez Beaux-Arts Éditions également d'Alain Vircondelet, Les couples mythiques de l'art. Merci beaucoup Alain Vircondelet. On
Merci
vous retrouve
vous.
Ce soir dans l'émission de télé,
Merci.
Bien entendu, à 20h45 sur France 3.